Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume. J'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Durant l'émission d'aujourd'hui, je vous propose un écoulement un peu singulier puisque je vais laisser s'exprimer deux autrices. Elisabeth de Gentil-Baïchi, Martine Ruchat et Michel Bolli, qui ont écrit sur le deuil et publié leur livre chez les éditions L'Harmattan, où j'ai moi-même publié avec Nathalie Rivière deux textes. Les deuils dont on ne parle pas, les deuils anténataux et voyage au cœur du deuil. Les émissions L'Harmattan, par leur ouverture et leur collection, laissent la plume à des auteurs ayant à s'exprimer sur un sujet délicat. Elles leur donnent la possibilité de se raconter. C'est une édition qu'il faut absolument connaître. Laissons donc la place à Elisabeth de Gentil-Baïchi. Je m'appelle Elisabeth de Gentil-Baïchi, j'ai 56 ans et je suis nantaise. Je suis biographe. Ce métier est venu à moi il y a 3 ans. Je le dois à ma fille Camille, envolée bien trop tôt. Ces témoignages m'ont été adressés pour que je puisse les lire durant cette émission. Si ce n'était pas mon absence, d'Elisabeth de Gentil-Baïchi, aux éditions L'Harmattan, 2015. J'ai écrit ce livre en 2014, 4 ans après le décès de ma fille Camille. Avec mon mari Eric, nous avions écrit un premier livre, 1 an après sa mort, un livre à deux, La vie quand même, avec en sous-titre, Suivre et renaître après la mort de son enfant. Ce besoin d'écrire, de me dire, de témoigner a été très fort. Il est venu au début de la peur d'oublier. Oublier la vie de Camille, oublier notre lien, oublier ce qui s'est passé et qui a entraîné son départ si brutal. Ce besoin urgent, quasi vital de noircir des feuilles, a été très fort pour ce premier livre. C'était brut, à fleur de peau. 4 ans après son envolée, bien que toujours dans une grande souffrance, mon écriture était autre. J'ai écrit, si ce n'était pas son absence seule. C'était une autre étape. Mon souhait était de parler de ce qui m'unissait à Camille, de parler de notre lien mère-fille. J'ai choisi de l'écrire à la troisième personne pour prendre un peu de distance. J'ai voulu y mettre plus de douceur, plus d'arrondi, moins que des faits. C'est de sentiments, de perceptions, d'émotions que j'ai voulu parler. Dire encore et encore mon amour à ma fille et témoigner de ce lien que rien ne peut briser, même pas la mort. Camille a mis fin à ses jours à l'âge de 15 ans et demi. Ce fut brutal, sans équivoque. Un stumani qui a tout balayé. Rien ne nous avait préparé à un tel geste de sa part. Pendant des mois, je ne trouvais pas de mots pour dire cette béance, cette souffrance, ce manque, cette déchirure. Alors, quelques années plus tard, écrire est allé chercher un peu plus profond de moi. Ce qui m'habitait m'a sauvé. Quand tout a été réinventé, quand on ne sait plus soi-même qui on est, on cherche à tâtons des nouveaux chemins pour avancer. L'écriture m'a permis de déposer ce qui m'encombrait, ces émotions dont je ne savais plus quoi faire après la mort par souci de ma fille. L'écriture m'amène ailleurs, me permet de me décentrer de ma peine. Je fais le choix de me poser et de regarder en face ce que j'ai à traverser, sans crainte. Je propose aux lecteurs mes réflexions sur l'absence, sur le besoin de solitude, sur la relation aux autres, qui se modifie sur ce qui me fait bien et m'apaise. L'écriture m'aide à mettre au monde la femme que je suis aujourd'hui, toujours la même et pourtant si différente. J'ai fait le choix d'écrire ce livre à la troisième personne. C'est une mère qui parle de sa fille. Ce pourrait être n'importe quelle mère. C'est une mère qui parle du temps du deuil, de laisser du temps au chagrin, de se dire aux larmes de couler. Du besoin de redire l'amour qu'elle porte à son enfant. C'est une mère qui avance au fil de l'eau, qui se surprend à entrevoir la lumière là, où ne régnait que le chaos. C'est une mère qui parle de ce chemin d'acceptation, de cette nouvelle vie qui s'offre à elle. La vie refleurit petit à petit, elle redécouvre ses saveurs, sa beauté, au lieu de s'éloigner. Sa fille lui devient plus proche. Un autre lien se construit, invisible aux yeux des hommes. L'absence devient en quelque sorte présence. Abordons, si vous voulez bien, maintenant un autre livre. « Les jours de pluie ne reviendront pas » d'Elisabeth Gentil-Baïchi et Virginie Ceodelo, toujours aux éditions Martin, paru en 2019. J'ai coécrit ce livre en 2018, 8 ans après le décès de Camille. Je m'étais dit, pour me rassurer, que j'écrirais un livre sur elle régulièrement jusqu'à ma mort. Et puis j'ai découvert le métier de biographe, et c'est un réel bonheur d'aller écouter la vie des autres, de l'écrire et d'en faire des livres. J'aime me dire que Camille m'a amené à faire autre chose de ma vie. Ce troisième livre, je l'ai écrit avec une amie. Elle a perdu sa mère par suicide quand elle avait 9 ans. J'ai perdu ma fille par suicide quand elle en avait 15. On a voulu parler et interroger ce lien mère-fille, bousculé et mis à terre. Nous avons écrit chacune de notre côté une lettre par mois. Virginie à Madeleine, sa mère, et moi à Camille, ma fille. Ce fut une écriture très douce pour moi. Traversée chaque mois en écrivant à Camille, la rendait présente, vivante. Nous avons envoyé avec beaucoup d'émotion notre lettre chaque mois avec Virginie. À la fin du livre, nous avions écrit en l'absence de l'autre, puis nous sommes écrit une lettre chacune pour l'autre. C'était incroyable de voir qu'écrire nous transformait, nous apaiser, nous décentrer, aussi de notre douleur. J'ai aussi beaucoup lu de livres de parents ayant perdu un enfant. Certains m'ont particulièrement rejoint. Aujourd'hui, je n'en lis plus. Une page est tournée. Écrire pour les autres est extraordinaire. Entendre leur histoire de vie, leurs blessures, leur joie, me fait comprendre que toute vie est un trésor qui mérite d'être raconté. J'aimerais beaucoup accompagner des parents ayant perdu un enfant dans l'écriture de leur livre. Je sais que voir ce livre dans sa bibliothèque est un réconfort incroyable. Le livre rend vivant aussi bien l'auteur que l'absent. Nous voyons parfaitement avec ce témoignage qu'écrire est une démarche thérapeutique. C'est pour ça que j'ai le projet, et je vous le livre tel que je l'ai imaginé, d'une structure où des patients pourraient écrire leur deuil, leur souffrance, leur maladie, leur malheur, de pouvoir les éditer et qu'ils puissent lire. Mais c'est un projet difficile, il faut des soutiens, des aides, des participations. Je vous le livre à votre réflexion. Je vous propose une petite pause musicale avec Saint-Preux, Le Rêve. je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioalliance.fr. Nous allons à présent nous rapprocher de cet autre livre, de cet autre auteur, Le deuil partagé, Martine Rucha et Michel Bouly, en fait deux auteurs. Édition du Tricorne, L'Harmattan, en 2012. Ces témoignages m'ont été adressés par les auteurs, notamment Martine Rucha. « Je ne suis pas croyante », nous dit Martine Rucha. Pourtant, la plongée dans le temps du deuil a fait spontanément émerger chez moi des rituels, veillées, mausolées, isolement, silence. Des croyances également, et fait vivre des expériences de réalité d'une autre dimension. En proposant à une amie que je n'avais pas revue depuis 20 ans, nous avions réalisé notre mémoire de licence ensemble sur l'écriture au féminin, j'avais eu une bonne intuition. Elle se trouvait être devenue théologienne et parfois accompagnatrice de groupes de personnes en deuil, ce que j'ignorais totalement, également poétesse. Au travail de l'écriture, qui a pris la forme d'un roman épistolaire en trois parties, voyage en terre du deuil, préparatif et cartographie, se mêlent références théologiques et expériences de ce qui, intrinsèquement, est unique pour celles et ceux, mais je garderai le féminin dans ce texte, qui le vivent, être subitement délesté d'une personne aimée. Il faut s'y faire, en pensée et en corporéité. Un couteau planté dans la chair. Donner sépulture. Au deuil, un pléonasme qui exprime une volonté d'en finir avec la douleur, pour au moins l'apprivoiser, la dominer et qu'elle ne soit plus maîtresse de sa vie. Cela a été l'objectif de cette démarche, une expérience d'écriture partagée. Entre deux autrices et avec un public de lectrices, de lecteurs, pour une traversée des mots et des mots de l'âme. Encore un livre sur le deuil. Pas vraiment. Plutôt un livre sur un chemin de résurrection, un cheminement à deux, à plusieurs, sur une carte muette du deuil avec ses étapes, un chemin de croix ou un labyrinthe dont il faudrait trouver la sortie. Mes croisements de vie également de deux amis sur ce chemin diffèrent, mais longs par la lourdeur des poids portés par ces endeuillés, après la perte, relation mort. Ces veuves en majesté, un peuple à part, de nulle part, nomades, traversant parfois un désert affectif, social, philosophique, une traversée de la solitude des endeuillés, de celles dont les pleurs dérangent lorsque le temps imparti socialement au deuil est dépassé face à la frénésie du vivre et du soi-disant bien-être. Un monde bien cruel pour elles, ainsi elles ont endossé le rôle de cartographes des arpenteuses du deuil. Pour moi, nos lettres échangées furent autant de bouées de sauvetage. Toujours mon ami m'a répondu avec sa sensibilité et ses mots forts qui m'ont fait avancer. Ses constats, apports de cultures différentes, poésie, contes, photographies, films, m'ont ouvert imperceptiblement sur la vie, obligeant à progressivement sortir de l'enconnage que produit le deuil. Elle m'avait aussi précédé en ces parages, ayant dû affronter un divorce non choisi, l'obligeant à traverser un temps de deuil. Dans une première lettre du 13 novembre, j'écrivais dans « Préparatif ». Il est là et me dit « Bonjour chaque jour ». Ses mots se glissent dans mon cou. Son rire habite mon cœur. Son pas résonne à mes oreilles. Il est entendu. Je l'attends encore. La porte n'a pas besoin de s'ouvrir pour le laisser passer. Je n'ai plus à me précipiter dans ses bras. Il est constamment là comme un compagnon d'existence. Côte à côte. Puis le 15 juin de l'année suivante, dans le roman épistolaire Cartographie, j'écrivais à mon ami « Tu m'as tendu la main pour passer ce guide de l'écriture. Fil continu entre les espaces réels et symboliques, entre compte rendu d'état intérieur et fiction fabriquée sur lits de souffrance. Et la mesure est sans cesse le rappel de tes lettres qui tisent le lien, l'échange, le partage. Cette carte est à utiliser avec souplesse, car chaque expérience est unique et paradoxalement difficile à partager. Le deuil partagé n'est pas un livre de recettes, c'est celui de deux expériences portées par deux personnes féminines, Sana et Théa, créées l'une et l'autre des autrices. C'est également un recueil de références ancrées dans le temps, d'images, celles d'obsédantes de celui qui est parti ou du mort et celles de la culture. Les gisants, les anges, Job, le Christ. De la présence de mots qui portent vers l'événement de la sérénité, le retour vers une vie paisible. Il faut se laisser porter par cette lettre qui voyage, elle aussi, de l'une à l'autre sur lesquelles sont accrochés des instantanés de vie et des bribes de sens de la vie. C'est un processus d'échange d'écriture et d'état d'âme en étapes irrégulières et souvent non chronologiques qui est offert en partage. Elle se nomme ici hors-temps, confusion, vivre avec l'esprit, chambardement, recommencer, imaginer, immunité, sortie, se souvenir, partager le deuil, parler, jachère, passage ailleurs, s'ouvrir. Pourtant, des questions resteront ouvertes. Faut-il cacher le deuil ou s'en faire part? Raconter l'événement l'estompera-t-il dans le souvenir ou le renforcera-t-il? Aimer un mort, est-ce le divin? Pourquoi la fin de l'amour? Pourquoi la fin de la vie? Pourquoi la vie avec ceux que nous aimons se termine-t-elle? Pourquoi, quoi qu'il en soit, ce petit livre précieux à plus d'un titre offre un chemin d'amitié, un lien avec la communauté, avec autrui, avec le spirituel, avec l'ultime, avec le possible. Se réveiller un matin avec une faim de loup et des fourmis dans les jambes, puis s'apercevoir que la mer tiède et turquoise vous épie, prête à vous mener au loin, au profond de la vie. C'est un extrait de Michel Bouly, Tira, Laisse en 1998. J'aimerais aussi, après cet extrait, vous parler de notre ouvrage « Blessure » de François-Xavier Pertuis, toujours chez l'édition L'Harmattan, qui évoque un deuil particulier, celui de la perte d'un frère ou d'une sœur. L'auteur, qui n'a pas souhaité nous présenter son livre personnellement ou nous écrire un témoignage, aborde la perte d'un frère et d'une sœur Christine. Ses deuils, et en particulier celui de sa sœur qu'il a connue, ont mobilisé tout son esprit, comme il le dit lui-même. Toute sa vie semble rythmée autour de ces événements dramatiques, dans une ambiance familiale de tristesse. N'ayant reçu aucune explication de la part de ses parents, il essaie de comprendre les raisons de ses décès. Sans réponse, il se réfugie dans la rêverie, les bons moments se passaient à rêver. La vie entière semble une quête pour connaître et comprendre. Sa vie professionnelle va être aussi tournée vers l'aide aux endeuillés. Il écrit « Le foisonnement de mes activités et de mes projets était mon juste retour au cadeau de la vie. Un hommage à la vie qui ne m'avait pas été retiré, un hommage à Christine qui vivait en moi. Le moyen de ne pas me faire rattraper par l'absence, de ne pas laisser la place vide. » À travers ce livre, on comprend le rôle de l'écriture. Elle permet de raconter, de se raconter, de dire tout ce qui est impossible à dire après un deuil. L'auteur nous dit aussi « Je ne pouvais pas évoquer ces deuils qui avec mes enfants, ni avec mes enfants, ni avec personne. » Un autre rôle de ce livre est de souligner les conséquences du deuil sur les enfants qui peuvent être dramatiques. Il fait aussi un rapprochement du deuil périnatal que j'ai eu l'occasion d'aborder moi-même avec ma co-autrice Nathalie Rivière dans notre ouvrage « Ces deuils dont on ne parle pas, les deuils anténataux aux éditions L'Harmattan ». La quatrième de couverture de François-Xavier Pertuis précise, François-Xavier Pertuis aborde la problématique de la perte d'un frère et d'une sœur avec une pudeur et une délicatesse de pensée tout à fait remarquable. Et l'extrait de la préface du professeur Bernard Goltz, « Blessure » est un livre poignant, fruit d'une longue élaboration, témoignage d'un jeune enfant esselé et endeuillé dans sa fratrie témoigne de l'adulte qu'il est devenu, réunissant à faire cohabiter une vie pleine et un deuil infaisable. Vous l'avez compris, il n'y aura pas aujourd'hui de rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui, car il faut que vous continuiez à profiter de cette émission en lisant les quatre ouvrages présentés, si ce n'est Son absence d'Elisabeth de Gentil-Baïchi, édition Lamartin 2015, Les jours de pluie ne reviendront pas d'Elisabeth de Gentil-Baïchi et Virginie Goët-Delot, édition Lamartin 2019, Le deuil partagé de Martine Rucha et Michel Bouly, édition du Tricorde et Larmatan 2012, Blessure de François-Xavier Pertuis, chez l'édition Larmatan. Je me permets de renouveler mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire, et à l'appel à témoins pour une émission sur les expériences de mort imminente, où je voudrais faire participer des témoins qui ont vécu cette expérience. Merci d'avance. Je vous laisse avec Saint-Preux et son piano et sa musique, avec un de ses titres, Impression. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé, un trésor, sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.